Bonjour Robert Danton.
Bonjour.
Merci d'être présent aujourd'hui pour cet entretien. C'est un grand plaisir de parler aujourd'hui de 50 000 lettres qui vient de paraître aux éditions de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, dans la belle collection Audiographie. Nous allons nous entretenir à propos d'un livre d'entretien. Donc, c'est une sorte d'entretien au carré. On va s'entretenir sur l'entretien.
Oui.
Vous êtes, Robert Danton, un spécialiste mondialement connu des Lumières, de l'histoire du XVIIIe siècle. Vous avez été professeur à Princeton de 1968 à 2007 et à Harvard, dont vous avez dirigé la bibliothèque de 2007 à 2016. Dans un moment crucial de numérisation des livres, nous aurons l'occasion sans doute d'en parler. Parmi vos ouvrages nombreux, je n'ai pas le temps de tous les citer parce que je pense que cela prendrait sans doute le temps qui nous est imparti. Voici une petite sélection de vos ouvrages, mais j'aurais pu avancer bien d'autres livres. La fin des Lumières, Le mesmérisme et la Révolution, L'aventure de l'encyclopédie, 1775-1800 sur un best-seller au siècle des Lumières, Bohème littéraire et Révolution, Le grand massacre des chats, attitudes et croyances dans l'ancienne France, Le diable dans un bénitier, l'art de la calomnie en France, Un tour de France littéraire, Le monde des livres à la veille de la Révolution, Édité et piraté, Le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution, La condition d'écrivain en 2025. Pour synthétiser, nos auditeurs l'auront compris, vous êtes un historien du livre, des éditeurs, de la littérature clandestine, de ces figures que vous avez joliment appelées les Rousseau du ruisseau du XVIIIe siècle. Avec 50 000 lettres, les éditions de l'EHESS publient un livre qui retrace votre magnifique parcours en cinq grandes parties qui correspondent à cinq épisodes de l'émission de France Culture à voix nue, dans lesquels vous vous entretenez avec la documentariste Élise Gruot. Ces entretiens ont été diffusés en 2017. Nous sommes en 2026, ils sont publiés presque 10 ans plus tard. Comment avez-vous reçu cette proposition d'édition de cette audiographie?
Eh bien, d'abord, j'étais étonné par être moi-même dans un livre, moi qui est historien du livre. C'était une surprise, une belle surprise. Je connais bien les autres personnages qui ont figuré dans cette série, Arlette Farge, François Furet, Jacques Revel. Donc je me sentais flatté d'accompagner ces grands intellectuels. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, en tant qu'historien de livre, j'apprécie beaucoup le livre. C'est bien. Le dessin est excellent. L'atmosphère du livre, c'est un livre de poche, un livre qui tend les bras au lecteur. Je crois que ce n'est pas lourd, ce n'est pas trop savant peut-être, mais j'essaie malgré tout de faire comprendre des aspects de l'histoire qui sont assez ignorés.
Absolument. Alors, je confirme auprès des spectateurs, des auditeurs, ce livre tient dans une poche, de jean, ça marche parfaitement.
Oui.
Et il se lit très agréablement, car c'est un livre d'entretien qui a ses marques d'oralité. Justement, comment passe-t-on de l'oralité à l'écrit? Comment avez-vous travaillé pour la mise en place de ce texte?
Eh bien, je pense qu'on a transcrit les entretiens et le texte, je l'ai à peine changé. Bon, il y avait des erreurs de français que je fais souvent, mais cela a été corrigé. Mais bref, le texte représente ce qui a été raconté. Et c'est peut-être l'aspect informel de raconter et d'écrire ce que c'est qu'un parcours parsemé d'anecdotes et d'expériences personnelles. Mais le livre final représente bien l'entretien original.
On y retrouve en effet les cinq épisodes et les cinq séquences qui organisent en fait, comme vous l'avez dit, un parcours, une carrière, un cheminement. D'abord, un destin manqué de journaliste. Ensuite, tu seras historien, deuxième épisode, la rencontre avec votre discipline, votre métier, votre profession. de l'encyclopédie au bas-fond, troisième domaine, où on se rend à Neuchâtel, dans le monde des Lumières. La censure, encore et toujours, où là, on se rend aussi à Berlin, un très bel épisode et un très beau chapitre. Le livre, demain, aujourd'hui, hier, votre rapport aussi à cet objet, à cette histoire. Alors, on ne va pas refaire l'entretien et l'ensemble des séquences, évidemment. Les lecteurs les découvriront. Mais à le relire, justement, est-ce que vous pensez que cela couvre l'ensemble de votre biographie? Est-ce que le biographe de Robert Danton peut considérer qu'il y a tout dans ces quelques pages?
Eh bien, je ne me considère pas comme une personne importante. Je suis un travailleur. Je travaille dans les archives, je découvre des choses, je tâche de raconter. Donc, je suis un peu comme un artisan, si vous voulez. Mais en même temps, il y a un aspect, je ne dis pas théorique, mais je fais très attention aux problèmes de théorie, d'anthropologie, de sociologie. J'ai beaucoup fréquenté des sociologues tels que Pierre Bourdieu, qui était un bon ami, Clifford Geertz, anthropologue. Il y a donc tout un aspect intellectuel et même philosophique qui se cache derrière mon récit. Je ne veux pas ennuyer le lecteur avec un discours sur la méthode, mais je pense que les 5 chapitres représentent bien ma vie, qui n'a pas été si intéressante que ça.
Alors, je pense que lire 50 000 lettres dément ce que vous venez de dire, c'est absolument passionnant de bout en bout et intéressant aussi, je pense, pédagogiquement pour des étudiantes, des étudiants qui s'intéressent et au journalisme et à l'histoire, parce que vous avez fait ces deux métiers. Et pour vous, justement, quelles sont les principales différences? Qu'est-ce que vous avez tiré du journalisme en histoire? Et peut-être, qu'est-ce qui peut aider un journaliste s'il est un peu historien?
Oui. Alors, aux États-Unis, on dit souvent le journal, c'est la première rédaction de l'histoire. Je ne suis pas de cet avis. Je trouve que le journalisme, travaillé comme reporter, tel que je l'ai fait, est un tout autre métier. Ce qui importe, pourtant, c'est l'exactitude des faits. Il faut savoir le nom exact des victimes quand il s'agit d'un meurtre, par exemple. Il faut être clair. Et aussi, il faut conformer en quelque sorte à la tradition d'écriture. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Eh bien, j'ai dû l'apprendre chez la police, entouré d'autres reporters, tout en travaillant, en faisant le métier. Tandis que le travail de l'historien, bien sûr, il importe énormément d'être exact. Mais il y a une vision beaucoup plus large et on a tout le temps pour soi. On peut se corriger. Mais moi, j'ai appris à écrire 800 mots dans une demi-heure. Travailler vite, être exact, c'est autre chose. Donc l'histoire, à mon avis, demande beaucoup plus de réflexion et toute une formation, puisque on a bien étudié les chefs-d'œuvre d'autres historiens. Je me sens inspiré par la civilisation de la Renaissance de Burckhardt. En fait, quand j'ai été reporter à New York, il y avait une sorte de salle assez primitive pour les journalistes face au quartier général de la police. Et là, dans cette salle, on jouait au poker, on lisait toutes sortes de magazines plutôt pornographiques, etc. Et j'avais soif de l'histoire. Je voulais à tout prix lire ce livre de Burckhardt qui m'a souvent inspiré. Mais je ne pouvais pas montrer aux autres reporters que je lisais un livre si sérieux Donc, je l'ai caché dans une revue pornographique. Et comme ça, j'ai passé comme bien d'autres gens. Donc, on compare le journalisme à l'histoire, mais franchement, je trouve qu'ils sont très différents. Une formation différente, une façon de voir le monde qui est différente. C'est trop vite dit que le journal d'aujourd'hui est le premier chapitre de l'histoire de demain.
C'est magnifique et on retrouve en plus votre goût dès cette histoire, d'être cette anecdote sur Burckhardt et cachée dans une revue pornographique sur les Rousseaux du ruisseau. D'une certaine façon, il y a aussi un peu de clandestinité dans cette démarche.
Oui.
Il y a aussi une dimension du métier d'historien qui est présente dans le livre d'entretien. C'est l'enseignement, la recherche et l'enseignement. Vous avez été professeur à Princeton pendant de longues années dans un département d'histoire très important, fameux. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode aussi de votre biographie?
Oui, c'était une belle époque. Princeton n'était pas si célèbre que Harvard et Yale, peut-être, mais dans le domaine de l'histoire, nous étions fiers et forts, mais surtout, on était sociables. Il y avait une sociabilité dans ce département avec Natalie Davis, et Lawrence Stone, et bien d'autres qui sont devenus assez célèbres. Mais on échangeait des rédactions d'articles, on bavardait souvent les grands ténors tels que Lawrence Stone, nous traitaient comme des égaux, nous, les jeunes. Donc, je crois, et il y avait quand même une sorte d'énergie et d'intérêt pour l'histoire culturelle dans le sens anthropologique du mot. Il y avait même un article dans le New York Times sur « The Hot History Department », le département d'histoire où il se passait des choses à la frontière de la connaissance. Donc, il y avait un bon esprit et une, comme je dis, une énergie intellectuelle qui m'a beaucoup influencé.
Et cette énergie, par ailleurs, elle était aussi liée à des liens assez forts avec l'historiographie européenne. Vous travailliez étroitement aussi avec la
absolument,
France, avec l'Angleterre.
En fait, nous avions un traité avec l'École des hautes études et chaque année, il venait un professeur de l'École des hautes études pour enseigner chez nous. Parfois, ils ne parlaient pas trop bien l'anglais, mais peu importe. Ils avaient une...
racontait qu'il avait des difficultés parfois avec ça.
Mais une présence. Mmh. Pierre Goubert, par exemple, qui ne parlait vraiment pas l'anglais, mais je l'accompagnais et il avait une présence assez étonnante. Il évoquait le paysan du XVIIe siècle d'une façon remarquable et les étudiants étaient enchanté. François Furet aussi, c'est à Princeton qu'il a rédigé son attaque contre Albert Soboul et qui s'appelle « Le catéchisme révolutionnaire ». Et je l'ai accompagné à cette époque-là, j'ai lu la première rédaction, etc. etc. Donc on se sentait assez proche de l'école des annales des historiens et aussi on nous invitait à passer un mois à Paris, etc. Le lien était très fort.
Et la francophonie était très présente, j'ai l'impression. Il y avait peut-être, je l'exagère, parce qu'en parlant à Nathalie Davis...
Nathalie Davis, bien sûr. Grande historienne qui parlait parfaitement français, qui a passé beaucoup de temps à Lyon, notamment. Arnaud Meyer, je ne sais pas s'il était... Mais il parle un français parfait. Je me souviens d'une réception chez lui où je suis arrivé avec François Furet. Et François m'a dit, il n'y a que les gens de gauche qui savent recevoir. Parce qu'il était très, très à gauche, mais élégant en même temps. Ça m'a donné une certaine vision de la gauche française aussi. C'était fascinant et très international.
Donc c'est un moment aussi, ce métier d'historien qui vous a mené, et vous le racontez aussi dans le livre, ça compose quasiment un chapitre entier, la position de directeur d'une des plus grandes bibliothèques du monde, celle de l'Université d'Harvard, où vous avez occupé un poste important. Comment aussi on passe d'enseignant, chercheur, historien, oui, à un poste aussi important d'administration d'une institution de cette taille?
Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a une tradition à Harvard de trouver un intellectuel, un savant qui dirige la bibliothèque, qui n'administère pas dans tous les détails, mais qui développe une politique, des rapports avec le monde extérieur, avec les facultés de Harvard, etc. C'est un peu une sorte de position à la fois culturelle et politique, et très important pour le monde du livre ailleurs, puisque Harvard, c'est la plus grande bibliothèque universitaire du monde. Elle est même plus grande que la Bibliothèque nationale de France. Énorme. Alors, j'étais historien du livre, passionné des livres, premièrement. Deuxièmement, j'étais un des trustees, c'est-à-dire un des conseillers de la New York Public Library et aussi de la Oxford University Press. J'avais pas mal d'expérience dans le monde du livre, le monde de l'édition, et une passion pour le livre. Alors, pourquoi est-ce qu'on m'a choisi? Je ne sais pas, mais j'ai répondu à la téléphone. « Voulez-vous venir devenir professeur d'histoire et diriger la bibliothèque ?» Je me suis dit, il n'y a que ça qui me ferait laisser mes collègues à Princeton, que j'aimais beaucoup, mais la possibilité de défendre le livre, de faire avancer la culture livresque me tentait beaucoup.
Et vous êtes arrivé à un moment aussi où vous avez décidé de mener un bras de fer, un combat contre une petite entreprise qui s'appelle Google, je crois. Donc c'est quand même un moment assez important aussi de l'histoire des rapports entre bibliothèque et les géants de la tech, comme on dit aujourd'hui.
Oui, oui. Tout l'avenir du livre était en jeu. En fait, Google est venu à Harvard pour dire « Nous voulons numériser tous vos ouvrages ». Et je n'étais pas encore le directeur, mais on était enchantés puisqu'on pouvait utiliser les versions numérisées comme stock pour garder, pour la préservation du livre qui est important. Et nous ne pouvions pas payer les frais de numériser 20 millions de livres. Bon, Google a commencé et le projet s'appelait Google Book Search. C'était un service de recherche. L'idée, c'est que Google montrait aux clients, aux lecteurs, où on pouvait trouver tel texte, et donner quelques extraits, que des extraits du texte, mais c'est un service de recherche. Eh bien, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, je suis arrivé à la tête de la bibliothèque, Google est venu me dire, et nous voudrions aussi numériser les livres couverts par droit d'auteur. Là, j'ai dit non, absolument pas. C'est contre la loi. Nous respectons le droit d'auteur. Non, non et non. Avec d'ailleurs l'appui du président de l'université, etc. Mais Google est allé à Michigan, l'université de Michigan, l'université de Stanford et de Californie. Eux, ils ont dit oui. Sur le champ, bon, Google a commencé à numériser et sur le champ, le Guild Authors Guild, c'est-à-dire la corporation qui représente les auteurs et une autre qui représente les éditeurs, the Association of American Publishers, ont porté plainte. Ils sont entrés immédiatement dans des des pourparlers, puis des négociations tout à fait secrètes. Et cela a duré presque 3 ans pour arriver à ce qu'on appelait « settlement », c'est-à-dire un accord. Ils m'ont invité à assister à quelques séances parce qu'ils voulaient la bénédiction de Harvard. J'étais étonné de suivre ce débat puisqu'il s'agissait de partager le revenu, les finances d'une grande entreprise qui aurait transformé un service de recherche dans une bibliothèque commerciale privée. Et finalement, j'ai dit non, je n'accepte pas cette idée. En fait, Google voulait monopoliser l'accès au savoir numérisé. C'était le début d'un effort d'un véritable monopole. Et une fois que le settlement, l'accord, a été publié, je l'ai attaqué dans une série d'articles dans le New York Review of Books. Il y avait tout un débat. Et finalement, une cour fédérale a dû prononcer sur l'accord. Est-ce que c'était conforme aux lois contre le monopole ou non? C'était évident. Mmh. C'était un monopole illégal et Google Book Search a été tué. heureusement, puisque l'idée, c'est que le public doit avoir accès aux livres tout en respectant le droit d'auteur. Et après cela, je me suis dit, mais c'était quand même une belle idée, pas l'aspect commercial, mais la recherche et la numérisation. Donc, j'ai convoqué une sorte de réunion de spécialistes de numérisation scientifique, quelques chefs de fondation qui sont importantes aux États-Unis et quelques chefs de bibliothèque. Et je leur ai proposé de créer une bibliothèque nationale numérique gratuite pour tout le monde. Et ça pouvait se faire en liant toutes les collections déjà numérisées de toutes les bibliothèques. Et 2 ans plus tard, nous avons lancé la National Digital Public Library of America. Et maintenant, cette bibliothèque numérique donne accès à 50 millions de livres. Mais tout en respectant le droit d'auteur.
Comme donc, Gallica en France, d'une certaine façon comme la bibliothèque numérique Gallica en France,
oui,
par exemple.
Oui, ça, il y a beaucoup de parenté entre Gallica et the DPLA, et d'autres encore. Il existe Europeana, qui est une sorte de bibliothèque européenne, numérisé.
Munich, différentes bibliothèques.
Oui. Mais ils ont toujours des problèmes, et nous aussi.
Mais là, on voit, et c'est assez fascinant, je pense qu'on le voit très nettement, et ça apparaît dans tout le livre, que votre compétence sur l'histoire du livre vous mène aussi à poser des questions, et particulièrement du livre au XVIIIe siècle, je dirais presque, avec les questions de droit d'auteur, les questions de clandestinité, de débats sur les monopoles. On est là dans des questions qui sont très modernes au sens early modern.
Mais oui, c'est le cas.
Et c'est assez magnifique de voir comment cette compétence historienne peut être mise au service d'intérêts publics et d'un poste administratif de premier plan. Qui rejoint une question que je voulais vous poser, peut-être justement entre 2017, le moment où vous répondez aux questions d'Élise Gruau et l'apparition de ce livre en 2026. Il y a plusieurs épisodes quand même qui se sont produits. On pense à l'émergence des intelligences artificielles génératives qui s'appuient sur aussi une banque de livres colossale. Des questions de censure aussi, de nouvelles censures aujourd'hui. La réélection de Trump aux États-Unis, mais dans beaucoup d'espaces autoritaires dans le monde aussi, le livre est menacé. Comment vous analysez cette évolution qui semble en peu de temps menacer un certain nombre de questions?
Oui. Eh bien là, l'histoire du livre est liée à l'histoire politique, évidemment. Et c'est certain que le régime Trump, que je déteste, pas besoin d'insister, veut recréer la réalité. Trump utilise le mot « réalité » pour décrire un monde imaginaire où il n'y a que deux sexes, où tout le monde est patriote, où on n'insiste pas beaucoup sur l'esclavage, où l'antisémitisme n'existe pas. C'est idiot, mais c'est une vision de la réalité qu'il veut faire passer. Et ça, il s'agit aussi de la censure. Il faut insister. Oui, oui, j'ai fait un livre sur la censure. Mmh. Je suis fasciné par les censeurs que j'ai connus à Berlin-Est. Mais vous savez, chez nous, la censure n'existe pas au niveau de l'État fédéral. C'est dans les États, les 50 États, que ça se fait, et surtout dans les villages, dans les petites villes où les citoyens élisent quelqu'un pour diriger le budget des écoles. C'est très différent de la France. Et souvent, les gens sont horrifiés par la sexualité, notamment la homosexualité, ou toutes ces questions de changement de genre, de sexe. Et ils veulent à tout prix éliminer de tels livres de leur bibliothèque, la bibliothèque des écoles, aussi les bibliothèques publiques, qui sont gérées au niveau local. Alors, j'ai fait une sorte d'enquête informelle sur cette censure-là, et c'est fascinant, puisqu'on est comme obsédé par ces questions de sexualité. Et il y a même pas 10 ans, 20 ans, il y avait une autre enquête. Quels sont les sujets les plus censurés à ce niveau-là? Le racisme, la pauvreté, question de guerre, etc. C'est un changement dans l'opinion publique que je trouve bizarre. Pourquoi est-on obsédé par cela?
Voilà, l'historien donc observe le présent, voilà, oui, avec cette inquiétude. Et alors, je vais revenir à ce beau livre de petit format. Va-t-il être traduit en anglais?
Il est déjà traduit. Un éditeur anglais veut l'imprimer. Et il était question de trouver un traducteur. C'est moi. Donc, j'ai déjà fait la traduction. Et c'est une drôle d'expérience de se traduire un texte que j'ai fait en français,
un texte
dans ma langue maternelle. Ouais. J'ai fait quelques petits changements, mais je cherche une autre musique.
Et vous ajoutez des choses?
Quelque chose, mais pas beaucoup. Mmh. Hein. J'ai respecté le texte original, mais on m'a donné permission d'élargir un peu mon discours.
Alors, je vais parler aussi de ce qu'on appelle de façon pédante le paratexte. Il y a une préface d'Antoine Nilti dans ce texte qui vous resitue aussi dans l'historiographie des Lumières. Il y a aussi, à la fin du livre, un article traduit par Catherine Koenig-Pralon, un article d'un certain Robert Darnton, âgé de 4 ans, dans le New York Times. Est-ce que vous pouvez revenir quand même sur cet épisode ? Ce n'est pas tout à fait commun.
Oui, j'ai commencé ma carrière de journaliste à l'âge de 4 ans. En fait, il faut dire d'abord que mon père a été tué dans la guerre. Il a fait la première guerre en France, dans les tranchées, pendant 7 mois, ce qui, pour un Américain, était exceptionnel. Ensuite, il est devenu journaliste, reporter pour le New York Times. Il est allé au Pacifique, où il a été tué. Et un ami de mon père m'a guidé à Washington. Et on pensait à l'histoire du petit enfant qui voit le roi nu, tandis que tous les autres le complimentaient sur sa costume. Vous connaissez peut-être l'histoire, la légende. Donc, j'étais le petit enfant qui voyait le Washington à l'époque de la guerre. Et ce journaliste savait écrire et précisément ce que l'on disait, shorthand. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'ai dit. Mais je le trouve bizarre de me lire à l'âge de 4 ans en décrivant le Pentagone, je l'appelais le Pentagone, et c'est un peu, pour moi, comment dirais-je, émouvant, puisqu'il s'agit un peu partout de la guerre, de la mort, des mauvais. Je ne connaissais pas le mot allemand, mais on passait l'ancienne ambassade d'Allemagne, etc., et nous sommes allés dans un hôpital, il y avait des blessés de guerre, etc. Nous sommes allés dans une cimetière et comme tout petit gosse, je vois maintenant que j'étais hanté par la guerre, la mort, la violence. Mais c'est plutôt drôle pour un lecteur d'aujourd'hui, je crois.
C'est exactement les deux adjectifs qui viennent à l'esprit. C'est drôle et très émouvant. Et ce petit texte justement qui est traduit et qui est voilà donc que vous évoquez dans l'entretien d'Avoix Nues qu'on relit aussi dans l'entretien qui est intitulé ici Robert 4 ans au pays des merveilles et qui reprend la légende des habits neufs de l'empereur et vraiment un voyage absolument magnifique et c'est un article voilà qui frappe. Votre père était lui-même journaliste au New York Times, vous avez vous-même été journaliste au New York Times. Il y a aussi ce monde là qui apparaît. Alors pour finir notre entretien, j'aimerais juste mentionner le fait que vous avez été aussi entre-temps, entre 2017 et 2026, le héros d'une bande dessinée qui s'appelle les Années Lumière par Pauline Lemaigre, Raoul Markowitz et le dessinateur Simon Spreut. Donc on vous voit intervenir, on fait un tour de France des Lumières grâce à vous et grâce à Neuchâtel aussi. D'ailleurs, on ne sait pas si vous êtes vraiment francophile ou helvétophile, on hésite un peu les deux.
Ça ne se contredit pas.
Mais la question que j'aimerais vous poser, comme nous parlons aussi à des libraires, à des amateurs de livres, c'est quel est le prochain ? Qu'est-ce que vous préparez après cela ?
Alors, j'ai passé, 60 ans dans les archives, ou 50, disons. J'adore les archives, je plonge dans les archives, et tout ce que j'ai publié résulte des recherches assez profondes, mais je tâche de les raconter d'une façon qui amuserait, intéresserait le grand public. Mais j'ai terminé. Je n'ai plus de recherche à faire. J'ai lu les 50 000 lettres qui se trouvent à la bibliothèque municipale de Neuchâtel, en Suisse, et beaucoup dans les archives de la Bastille et autres collection. Je me suis dit, bon, tu vas faire autre chose. et je prépare un livre sur le monde de mon père, les journalistes des années 20 à New York. Et c'était très spécial, un monde qui passait pour être bohémien, mais je n'aime pas beaucoup le mot bohémien. Mais comme je n'ai jamais connu mon père, et il y a peu de documents qui me renseignent sur sa vie, je m'efforce de connaître le milieu des journalistes et leur façon de travailler. Donc ça devient une sorte de sociologie du journalisme, mais pas trop lourd. Il y a plein d'histoires à raconter, et c'était, à mes yeux, un monde fascinant. Je ne sais pas si ça va fasciner les lecteurs, mais j'espère que oui.
Ah, j'en suis sûr, parce qu'on a quelques déjà avant-premières dans 50 000 lettres, puisque votre père est présent à travers des anecdotes aussi qui sont émouvantes et intéressantes. Et pour toutes ces raisons, Robert Darnton, je vous remercie de cet entretien sur l'entretien, en espérant que les lecteurs se plongeront dans ces 50 000 lettres ici rassemblées.
Bon, merci, je l'espère aussi, et je vous remercie de ma part.
Merci.